Bonjour, le secrétaire général va vous donner des informations au sujet de la ministérielle des Affaires étrangères demain et ensuite il sera heureux de répondre à vos questions, monsieur le secrétaire général. Merci. Dans 2 semaines, les dirigeants des pays de l'OTAN se réuniront à Londres. Ensemble, nous célébrerons le 70e anniversaire de l'Alliance tout en restant tournés vers l'avenir. Demain, les ministres des Affaires étrangères parachèveront les préparatifs pour la réunion de Londres. Cette réunion des dirigeants arrive à un moment opportun, notamment car des questions se posent actuellement ou sont posées actuellement s'agissant de la solidité du lien transatlantique. Il y a en effet des divergences de vues entre alliés sur toute une série de dossiers tels que le commerce, le climat, l'accord nucléaire iranien et plus récemment la situation dans le nord-est de la Syrie. Toutefois, les divergences entre nos démocraties ne datent pas d'aujourd'hui. Et malgré toutes ces divergences, malgré toutes ces interrogations, notre alliance s'est renforcée au cours de ces 70 dernières années. Nous continuons à assurer la sécurité pour presque 1 milliard d'habitants. D'ailleurs, l'Europe et l'Amérique du Nord font plus ensemble au sein de l'OTAN actuellement que cela n'a été le cas au cours de ces dernières décennies. Nous renforçons notre dissuasion et notre défense en améliorant la réactivité de nos forces. Nous intensifions nos réponses à l'encontre d'attaques cyber et pour contrer les menaces hybrides. Et nous jouons un rôle clé dans la lutte contre le terrorisme international, notamment au travers de nos missions de formation en Afghanistan et en Irak. Au final, il est dans l'intérêt national de chacun de nos pays de faire partie d'une alliance transatlantique qui soit forte. Tout ce que nous faisons doit reposer sur un partage équitable du fardeau. C'est la 5e année consécutive de croissance des budgets de la défense pour les pays européens de l'Alliance et le Canada. Plus de 100 milliards de dollars supplémentaires ont été investis en matière de défense. Il s'agit de progrès inédits et nous sommes déterminés à conserver cet élan. Dans un monde en pleine mutation, l'OTAN continue à s'adapter pour faire face aux défis stratégiques. Et demain, nous allons franchir une étape importante supplémentaire. Les ministres devraient reconnaître l'espace comme étant un domaine opérationnel et cela viendra s'ajouter au domaine air, terre, mer et cyber. L'espace est essentiel pour la défense et la dissuasion de l'Alliance, pour la détection lointaine, les communications, la navigation. Il y a environ 2000 satellites qui sont en orbite autour de la Terre actuellement et la moitié environ sont détenus par des pays de l'OTAN. Donc en reconnaissant l'espace comme domaine opérationnel, nous envoyons un message clair, à savoir que nous continuons à renforcer notre dissuasion et défense dans tous les domaines. Notre approche restera défensive et dans le plein respect du droit international. L'OTAN n'a pas l'intention de déployer des armes dans l'espace, mais nous devons nous assurer que nos missions et opérations ont tout le soutien nécessaire. Nous aborderons également toute une série d'autres questions, notamment le rôle de l'OTAN s'agissant de la lutte contre le terrorisme. Nos missions de formation en Afghanistan, en Irak, continuent de jouer un rôle important pour prévenir, pour empêcher le retour de Daesh et d'autres groupes terroristes. Nos travaux visant à lutter contre les menaces hybrides seront également à l'ordre du jour. Les alliés intensifient leurs efforts dans ce domaine, notamment par le biais des exigences de base pour des télécommunications résilientes, y compris la 5G. Et notre première équipe de soutien pour la lutte contre les pratiques hybrides est au Monténégro cette semaine. Nous continuerons également à discuter d'autres questions stratégiques, comme l'approche double de l'OTAN s'agissant de la Russie, ce que signifie la montée en puissance de la Chine pour l'OTAN, et l'avenir de la maîtrise des armements. L'OTAN est une enceinte qui réunit les pays d'Europe et d'Amérique du Nord afin de traiter des défis stratégiques en matière de sécurité. L'OTAN reste le seul garant de la sécurité européenne et transatlantique. Il incombe à chacun d'entre nous de maintenir et de renforcer notre unité, et ce, pour assurer une dissuasion et une défense crédibles pour tous. Je suis maintenant prêt à répondre à vos questions.
Thank you, Secretary General. Two questions.
Merci, Monsieur le Secrétaire Général. 2 questions. Ce chiffre de 100 millions de dollars a été cité à maintes reprises. 100 milliards, pardon. Quels sont les chiffres que vous allez présenter prochainement au président Trump? Ensuite, s'agissant de la reconnaissance de l'espace en tant que domaine, comment éviter de donner l'impression que l'OTAN s'approprie l'espace? Nous allons publier de nouveaux chiffres relatifs aux investissements de défense avant la réunion des dirigeants des pays de l'OTAN qui se tiendra à Londres début décembre. Ces nouveaux chiffres seront fondés sur les plans nationaux qui nous ont été fournis par tous les pays, parce que tous les pays ont actualisé leurs plans nationaux d'ici la réunion. Et nous allons également nous appuyer sur les budgets approuvés par les différents parlements. Alors, je ne vais pas anticiper sur l'annonce qui sera faite à Londres, mais d'ici quelques jours, nous pourrons vous présenter les derniers chiffres. La croissance des dernières années est vraiment inédite. Les augmentations continuent. Après des années de coupes sombres, tous les alliés ont inversé la tendance et je pense que nous allons poursuivre maintenant sur cet élan. S'agissant de l'espace, il revêt une énorme importance pour nos sociétés civiles et pour toute opération militaire. Il en va des communications, de la navigation, des images, des données. L'espace est vraiment indispensable à toute action. Et nous souhaitons nous doter des bonnes capacités afin que nos missions et opérations bénéficient d'un soutien adéquat. C'est essentiel et nous voulons assurer la coordination entre tous les pays de l'Alliance. C'est essentiel et cela montre aussi que l'OTAN s'adapte pour relever les nouveaux défis en matière de sécurité. Merci. Wall Street Journal. Bonjour. Monsieur le secrétaire général, vous avez l'habitude d'entendre le président des États-Unis critiquer l'OTAN. Maintenant, le président de la France s'en prend également l'OTAN. Comment interprétez-vous ces remarques formulées lors d'un entretien avec la revue The Economist? Est-ce que vous avez pris contact avec Paris pour obtenir davantage de précisions? Est-ce que vous pensez que son discours sera discuté à Londres? Je vais m'en rendre à Paris la semaine prochaine. Je vais rencontrer le président Macron. Mon message est le suivant. L'OTAN s'adapte, l'OTAN est agile, l'OTAN réagit. En Europe et en Amérique du Nord, nous travaillons davantage ensemble que cela n'a été le cas au cours des dernières décennies. Et les États-Unis ne quittent pas l'Europe, loin de là. La présence américaine en Europe se renforce avec davantage de troupes, avec davantage d'investissements dans des infrastructures militaires en Europe. En même temps, les alliés européens montent au créneau. L'autre message que je tiens à faire passer est le suivant. L'union ou l'unité entre pays européens et l'unité transatlantique ne sont pas incompatibles. Il faut que les pays européens investissent davantage dans la défense, c'est certain, mais cela viendra renforcer le pilier européen de l'OTAN et ne portera nullement préjudice à l'OTAN. J'ai prononcé ce même discours à Berlin lors de ma visite récente en Allemagne. L'Allemagne est tout à fait favorable à ce que l'Union européenne renforce ses efforts en matière de défense, mais dans le cadre de l'OTAN. Et l'unité européenne ne peut remplacer l'unité transatlantique. Les deux sont indispensables, et notamment après le Brexit, l'Union européenne ne sera plus à même de défendre l'Europe. 80% des dépenses de l'OTAN seront assurées par des pays non membres de l'UE. Le lien transatlantique sera essentiel, indispensable pour la sécurité de l'Europe. Et la garantie de notre sécurité, c'est la garantie nucléaire, la dissuasion nucléaire. Ça fait partie intégrante de l'Alliance et nous organisons des plans et des exercices pour nous permettre d'assurer cette dissuasion en tant qu'Alliance transatlantique. Donc c'est le discours que je tiendrai, c'est le discours que je tiendrai à Paris notamment. Et nous sommes 29 démocraties de part et d'autre de l'Atlantique. Il y a des divergences de vues. Il y en a déjà eu lors de la crise de Suez en 1956, mais ce qui fait notre force, ce qui fait la force de l'OTAN, c'est que malgré ces divergences, nous avons toujours pu nous unir pour nous défendre. Et il incombe à chaque allié de poursuivre dans cette voie aujourd'hui, parce que nous vivons à une époque incertaine et nous avons donc besoin plus que jamais d'organisations internationales fortes telles que l'OTAN. Donc la solution passe par une OTAN plus forte et non pas par un affaiblissement du lien transatlantique. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, dans l'entretien qu'il a donné à The Economist, le président Macron a dit qu'après le Brexit, la France serait le seul pays membre doté d'armes nucléaires, pays membre de l'UE s'entend doté d'armes nucléaires. Alors, quelle valeur stratégique apportent les armes nucléaires françaises à la sécurité en Europe ? Il ne m'appartient pas de faire des commentaires sur l'UE, mais notre dissuasion nucléaire est indispensable à notre sécurité. Nous avons trois puissances nucléaires membres de l'Alliance, les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les États-Unis participe également à la dissuasion nucléaire de l'OTAN grâce aux accords de partage. Les États-Unis ont des armes nucléaires en Europe, déployées dans différents pays membres de l'OTAN en Europe. Et nous avons aussi nos aéronefs à capacité duale qui sont exploités depuis différents pays d'Europe. Donc voilà ce qui constitue la garantie ultime de notre sécurité. La France ne participe pas à la capacité partagée de l'OTAN, à la capacité commune de l'OTAN. C'est une décision qui a été prise par la France, mais en même temps, les armes nucléaires françaises soutiennent l'OTAN. Et cela sera toujours le cas, même après le Brexit. Les pays européens de l'Alliance ont rappelé à maintes reprises que le Brexit n'aurait aucun impact sur l'OTAN. Le Brexit va transformer la relation qu'entretient le Royaume-Uni avec l'UE, mais non pas celle qu'il entretient avec l'OTAN. Et toute tentative visant à enfoncer un clou entre l'Europe et les États-Unis portera préjudice aux liens transatlantiques et divisera également l'Europe. L'Europe n'a pas du tout intérêt à semer la discorde. Toute division nuirait tant à l'Europe qu'à l'Amérique du Nord et porterait préjudice à l'unité transatlantique. Donc il faut que l'Alliance reste soudée, il faut que l'Europe reste soudée. Ces deux objectifs ne sont nullement incompatibles. Merci, Financial Times. Bonjour. Quelques questions. Est-ce que vous êtes préoccupé? Est-ce que vous pensez que Pékin pourrait considérer l'approche de l'OTAN vis-à-vis de la Chine comme étant une menace, puisque l'OTAN est une alliance militaire? Ensuite, est-ce que la reconnaissance de l'espace comme domaine opérationnel signifie qu'une attaque visant un satellite en orbite pourrait entraîner l'invocation de l'article 5? L'OTAN est une alliance défensive. Nous ne menaçons aucun autre pays que ce soit. Et personne n'a proposé de déployer l'OTAN, de projeter l'OTAN, par exemple, en mer Chine, méridionale. Mais nous constatons la montée en puissance de la Chine. La Chine sera bientôt la première économie mondiale. Elle a le deuxième budget militaire mondial. Elle investit dans de nouvelles capacités militaires, notamment dans des armes hypersoniques, des armes à guidage, des missiles ICBM. Il s'agit de capacités militaires conséquentes qui ont un impact, une incidence sur notre sécurité. Et ensuite, la Chine se rapproche de nous. La Chine est présente en Afrique, dans l'Arctique. Elle investit dans des infrastructures en Europe. Et elle est également très présente dans le cyberespace. Nous devons en tirer les conséquences pour notre sécurité. Il y a des occasions à saisir, il y a aussi des défis à relever. Et je suis très heureux que les alliés aient décidé de s'attaquer à ces questions tous ensemble. Parfois, enfin, j'étais aux États-Unis la semaine dernière. Et certains de mes interlocuteurs ont exprimé des préoccupations relatives à l'importance de la Chine. Si ça préoccupe les États-Unis, alors il faut qu'ils s'attachent à préserver leurs alliances, leurs liens d'amitié. Donc, en effet, la Chine monte en puissance, ce qui illustre bien l'importance que devrait revêtir l'OTAN, y compris pour les États-Unis. S'agissant de l'espace, tout allié est libre de solliciter des consultations sur toute menace ou toute attaque. C'était déjà le cas avant que l'on reconnaisse l'espace comme domaine opérationnel. Et ce sera le cas toujours si les ministres reconnaissent l'espace comme étant un domaine opérationnel demain, ce que j'anticipe. Chaque scénario sera toujours étudié au cas par cas. La décision d'invoquer l'article 5 est toujours prise au cas par cas. Nous n'allons pas faciliter la vie à nos adversaires en indiquant avec précision quel seuil permettrait une telle invocation.
Question. Just change the fence. Bien, donc le plus grand allié de l'OTAN, les États-Unis, va avoir un commandement pour l'espace et a l'intention de militariser l'espace. Y aura-t-il un lien entre l'image de l'espace de l'OTAN s'agissant de la détection lointaine avec le commandement espace des États-Unis? Et dans ce cas-là, évidemment, cela posera peut-être des questions s'agissant du domaine opérationnel espace de l'OTAN. Où n'y aura-t-il aucun lien entre les deux? Réponse. Nous n'allons pas militariser l'espace. Nous n'allons pas déployer des armes dans l'espace. Mais évidemment, nous devons tenir compte du fait que l'espace joue un rôle accru pour nos missions et opérations militaires. Et nous savons que nos sociétés civiles sont particulièrement vulnérables par rapport à l'espace à cause des questions de télécommunication, de navigation, etc. Alors je ne vais pas entrer dans les détails s'agissant de la façon dont nous allons communiquer avec les commandements nationaux de l'espace. Ça relève de capacités nationales. L'OTAN aura une approche purement défensive. Il n'y aura pas d'armes déployées dans l'espace. Belsat du Belarus. Question, Monsieur le Secrétaire Général. 5 ans après le début de l'agression hybride de la Russie contre l'Ukraine, que pensez-vous de la situation au Belarus? Est-ce que le Belarus représente une menace potentielle pour l'OTAN? Réponse, le Belarus est partenaire de l'OTAN depuis 1995. Et nos relations avec ce pays reposent sur nos intérêts communs et le souhait d'avoir un dialogue ouvert. Nous collaborons par exemple avec le Bélarus sur des questions relatives à la transparence, à la réduction des risques, car nous estimons que dans un environnement sécuritaire avec des tensions accrues, avec plus d'exercices militaires, il faut avoir autant de transparence que possible pour accroître la prévisibilité et éviter les incidents. le secrétaire général adjoint pour les questions de sécurité a participé à une délégation envoyée au Bélarus récemment et a participé au dialogue visant à renforcer notre partenariat avec le Bélarus. Pour nous, le Bélarus ne représente pas une menace pour l'OTAN ou pour un pays allié et nous saluons toute collaboration avec ce pays. Question. Hier, la Russie a rendu à l'Ukraine les restes des navires saisis l'année dernière. Cela dit, la décision du tribunal international de la mer n'est toujours pas respectée. Y aura-t-il des décisions prises demain par les ministres s'agissant de la présence maritime de l'OTAN en mer Noire et de la liberté de navigation dans cette mer? Réponse. Tout d'abord, je salue évidemment le retour des navires qui avaient été confisqués par la Russie. La Russie aurait dû le faire il y a très longtemps. La Russie n'aurait jamais dû saisir ces navires. Elle n'en avait pas le droit. Et donc, je me félicite du fait que ces navires vont être rendus à l'Ukraine. Et cela, évidemment, veut dire que la Russie respecte ses obligations enfin. Et je pense que cela aidera notamment pour ce qui est des accords de Minsk et des efforts déployés dans le cadre du format Normandie afin d'arriver à une politique durable en Ukraine. Alors je pense que les ministres des Affaires étrangères aborderont cela demain. Le Conseil de l'Atlantique Nord et moi-même, nous sommes rendus récemment en Ukraine. Nous avons été à Kiev, nous avons rencontré le président Zelensky. Nous sommes également rendus à Odessa, où l'OTAN aide à mettre sur pied une académie navale visant à renforcer l'éducation dans le domaine naval en Ukraine. Et là, on voit que l'OTAN et les alliés apportent un soutien politique important à l'Ukraine, mais également un soutien concret en matière de cyber, logistique, commandement et contrôle. Et différents pays alliés de l'OTAN fournissent des formations dans différents domaines. Et donc nous allons poursuivre évidemment ces efforts et nous réitérons le fait que la Russie doit garantir la liberté de navigation dans la mer d'Azov et dans le détroit de Kerch. Question. Monsieur le secrétaire général, dans le nord de la Syrie, la situation s'est calmée depuis la réunion des ministres de la Défense, mais la Russie s'est installée dans une base où se trouvaient les Américains 24 heures après leur départ. Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet de cette situation, même s'il y a une certaine accalmie actuellement sur le terrain ? Réponse. Je salue le fait qu'il y a eu une réduction des violences déjà. La situation dans le nord de la Syrie reste très précaire. La situation est très complexe, comme vous le savez. Mais je suis encouragée par le fait qu'il y a eu une réduction des violences et nous faisons tout notre possible pour arriver à une solution politique à la crise en Syrie. Évidemment, il y a des points de vue divergents entre pays membres de l'OTAN s'agissant du nord-est de la Syrie. Malgré tout, je pense que l'OTAN est une enceinte permettant aux pays alliés de discuter de la situation en Syrie. Cela a été le cas lors de la ministérielle défense récemment. Et je pense que ce sujet sera bien entendu abordé demain lorsque les ministres des Affaires étrangères se réuniront. Nous sommes tous d'accord sur le fait que nous ne devons pas ici mettre en péril ce que nous avons pu faire pour lutter contre Daesh jusqu'ici et tous les acquis. Donc nous suivons tout cela de très près. La Turquie est le pays membre de l'Alliance qui accueille le plus grand nombre de réfugiés. Nous en sommes conscients. La Turquie a également été victime de nombreuses attaques terroristes et donc ses préoccupations en matière de sécurité sont légitimes. Et l'OTAN est une enceinte où les alliés peuvent discuter et discuter de ce type de situation. Question. Monsieur le secrétaire général. Qu'en est-il du protocole d'accession de la Macédoine du Nord? Il reste encore deux pays qui doivent ratifier cela. Nous allons célébrer le 70e anniversaire de l'OTAN à Londres, mais ce ne sera pas avec 30 alliés. Réponse. La Macédoine du Nord va bientôt devenir membre à part entière de l'OTAN, puisque la plupart des parlements des 29 pays membres de l'OTAN ont ratifié le protocole d'accession. Cela a été fait aux États-Unis la semaine dernière. Donc le Sénat a approuvé la ratification du protocole d'accession et, comme vous le savez, la plupart des alliés l'ont fait également. Alors, je pense que ce processus ne sera pas finalisé d'ici début décembre chez tous les alliés. Mais en tous les cas, début 2020, et la Macédoine du Nord sera membre à part entière à partir de ce moment-là. De toute façon, la Macédoine du Nord va participer à la réunion des dirigeants à Londres. La Macédoine du Nord sera un pays invité et cela montre bien que la Macédoine du Nord est considéré comme un pays allié futur sur lequel nous pouvons compter.
Thank you very much. Denis Dobrovin.
Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, une question au sujet du partage du fardeau. Les chiffres pour 2018 montrent que le budget militaire de l'OTAN est 20 fois supérieur au budget militaire de la Russie. Alors, qui faut-il vraiment dissuader? Et comment se fait-il que l'OTAN estime qu'il est nécessaire de dissuader la Russie alors que son budget militaire est tellement plus élevé que celui de la Russie et alors qu'il recherche toujours des progrès en la matière? Est-ce que cela veut dire que les forces de l'OTAN sont 20 fois moins efficaces que celles de la Russie? Nous investissons dans nos forces armées, dans la dissuasion de la défense, mais nous ne visons personne. Nous sommes une alliance défensive et nous nous évertuons à assurer une dissuasion de défense crédible. Et si nous appelons cela de nos voeux, ce n'est pas pour susciter un conflit, mais bien pour prévenir tout conflit. Si un allié est agressé, toute l'alliance régira. Tant que tout le monde en est certain, il n'y aura pas de conflit. C'est notre raison d'être. Notre but, c'est toujours de prévenir les conflits militaires. Nous avons accompli cela au cours des 70 dernières années. Les actions agressives prises par la Russie à l'encontre de l'Ukraine ont suscité une réaction de la part de l'OTAN, une adaptation visant à accroître les réactifs de nos forces et le déploiement à l'avant de forces prêtes au combat dans la partie orientale de l'Alliance pour envoyer un signal limpide, à savoir ce qui s'est produit en Crimée ne saurait se produire sur le territoire de l'Alliance. Et il faut éviter tout malentendu, toute erreur d'appréciation. Et s'il n'y a pas de malentendu possible, alors nous ne nous retrouverons pas dans cette situation et nous pourrons ainsi préserver, garantir la paix. C'est la raison pour laquelle nous investissons davantage, c'est la raison pour laquelle nous avons déployé des forces dans la partie orientale de l'Alliance et c'est la raison pour laquelle nous avons revu la hausse, la réactivité de nos forces. S'agissant des chiffres que vous avez cités, nous sommes une alliance efficace, nos forces sont efficaces, mais les coûts sont élevés parce que nous vivons dans les pays, dans des pays qui ont un certain train de vie. Donc les coûts sont plus élevés dans les pays de l'OTAN qu'en Russie. Mais si nous comparons les prix en utilisant des devises communes, si nous comparons les chiffres bruts, alors en effet, il y a une divergence, mais ce n'est pas pour autant que nous soyons moins efficaces. C'est parce que les coûts que nous devons endosser ne sont pas les mêmes. Si vous comparez les chiffres en utilisant la parité du pouvoir d'achat, la différence est moindre, mais nous allons investir tout le nécessaire pour obtenir une dissuasion crédible. Agence France-Presse. Bonjour. J'embraye sur le thème de la Russie. Est-ce que vous êtes préoccupé par les appels lancés par le président Macron en faveur d'un rapprochement avec Moscou? Est-ce qu'il va trop vite en besogne? Est-ce que la Russie a vraiment mérité un tel rapprochement? Et que pensez-vous du moratoire proposé par la Russie sur le déploiement de missiles à portée intermédiaire en Europe? L'OTAN et tous les membres de l'OTAN ont dit et répété qu'il nous faut une double approche vis-à-vis de la Russie. Et je m'attends à ce que les alliés réitèrent leur attachement à cette approche lors de leur réunion de Londres. Nous avons besoin d'une dissuasion, d'une défense forte, certes, mais en même temps, nous devons toujours nous évertuer à améliorer nos relations avec la Russie, parce que la Russie est notre voisine, elle sera toujours notre voisine. Alors nous allons faire tout notre possible pour améliorer nos relations. Et même sans relations meilleures, nous allons favoriser le dialogue, la prévisibilité, la transparence dans nos relations avec la Russie. Donc nous devrons gérer une relation délicate, parce que plus les tensions sont fortes, plus il y a d'exercices militaires, plus il nous incombe d'éviter tout incident, tout accident qui risquerait de déraper et de nous échapper. Tous les alliés ont adhéré à cette double approche. S'agissant de la maîtrise des armements, nous regrettons tous la disparition du traité FMI. Tous les alliés ont dit à maintes reprises que c'est la Russie qui est seule responsable de la disparition de ce traité. C'est la faute à la Russie parce que la Russie n'a pas respecté les dispositions du traité FMI. Et par conséquent, c'est la Russie qui a battu en brèche ce traité. L'OTAN discute maintenant de sa riposte, de sa réaction. Nous allons prendre les mesures en faveur de la maîtrise des armements, parce que nous sommes partisans de la maîtrise des armements. Mais pour être efficace, tout régime de maîtrise des armements se doit d'être équilibré, crédible et respecté. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure nous pourrons englober les armes à portée intermédiaire dans le nouveau régime que nous avons voulu, mais si le traité FMI n'est plus, c'est parce que la Russie ne l'a pas respecté. Merci, Europa Press. Merci. L'OTAN devra certainement poursuivre son adaptation pour faire face aux menaces dans l'espace, pour faire face à l'intelligence artificielle, aux nouvelles technologies. Alors, est-ce que vous pensez qu'il sera tout de même possible pour l'OTAN de réfléchir à la manière dont elle prend les décisions stratégiques qui ont un impact majeur sur l'Alliance, telles que l'offensive en Turquie et la décision prise par les États-Unis stipulant le retrait de ses troupes? Est-ce que vous comprenez les critiques du président Macron qui a dit que l'OTAN fonctionnait bien côté militaire en termes d'interopérabilité, mais qu'il y avait encore une marge d'amélioration s'agissant des consultations stratégiques politiques? Et à l'avenir, par la suite, est-ce que vous pensez que les principales menaces pour l'OTAN viendront de l'intérieur ou bien de l'extérieur? L'OTAN discute en permanence de questions qui revêtent une importance stratégique pour tous les alliés. C'est ce que nous faisons à chaque réunion et c'est ce qui nous a permis d'élaborer une double approche vis-à-vis de la Russie, à savoir la dissuasion de défense d'une part et le dialogue d'autre part. C'est ce qui nous a permis de nous mettre d'accord sur notre approche s'agissant de l'extinction du traité FMI. Nous avons regretté les actions russes, mais nous avons salué l'unité dont les alliés ont fait preuve. C'était de grands enjeux stratégiques et nous avons pu, dans les deux cas, adopter des approches communes. S'agissant de la maîtrise des armements, nous en parlons périodiquement au sein de l'OTAN. Le terrorisme a été discuté à maintes reprises au sein de l'OTAN. Notre mission en Afghanistan, qui constitue notre plus grande mission militaire, vise à lutter contre le terrorisme, afin que l'Afghanistan ne redevienne plus jamais un abri pour les terroristes internationaux, un refuge. Tous les paiements de l'Alliance sont membres de la coalition mondiale de lutte contre Daesh. Nous avons tous participé à une réunion de la coalition qui s'est tenue à Washington la semaine dernière. Nous avons parlé de la situation en Syrie. Il y a des divergences de vues entre membres de la coalition et entre membres de l'Alliance, mais au moins tous les alliés sont réunis autour d'une même table. Nous pouvons discuter à bâton rompu et chercher des terrains d'entente. Et malgré les divergences que nous constatons actuellement s'agissant de la situation en Syrie, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il nous faut intensifier la lutte contre les îles. Nous devons poursuivre nos opérations et nos missions en Turquie avec par exemple les mesures d'assurance et notre présence en mer Égée. Et nous sommes également d'accord, tous d'accord, pour dire que, ou plutôt qu'il importe pour nous de rester unis afin que Daesh ne puisse s'implanter en Afghanistan comme il entend le faire. L'OTAN est bien la seule enceinte qui permet aux Européens et aux Nord-Américains de se retrouver au quotidien pour débattre de toute une palette de questions, dont les questions stratégiques les plus urgentes et les plus d'actualité. La Russie, la Chine, la maîtrise des armements et d'autres questions encore. Le plus souvent, nous sommes tous d'accord sur l'approche à adopter. Nous ne sommes pas toujours d'accord pour autant, mais alors il est important pour nous de nous retrouver, de discuter et de trouver des solutions.
Yeah.
Question. Étant donné ce que vous venez de dire au sujet de l'Union européenne, prévoyez-vous d'inviter les responsables de l'Union européenne à la réunion des dirigeants de l'OTAN à Londres ? Réponse. C'est une réunion très particulière car il n'y aura qu'une séance de travail et donc c'est une configuration différente de la plupart des réunions de chefs d'État et de gouvernement de l'OTAN. Donc comme je l'ai dit, il n'y aura qu'une seule session durant laquelle nous allons aborder l'avenir de l'OTAN et il n'y aura qu'une seule session car ce n'est pas un sommet à proprement parler, c'est une réunion des dirigeants qui nous permet de célébrer le 70e anniversaire de l'Alliance. Je me réunis régulièrement avec les responsables de l'Union européenne et donc je sais que les responsables de l'Union européenne sont tout à fait conscients de l'importance de la relation OTAN-UE et je me réjouis déjà de coopérer avec les nouveaux responsables de l'Union européenne. Agence France-Presse, deuxième question. En français.
Bonjour. Vous n'avez pas répondu à la question de ma consoeur qui demandait si vous compreniez les critiques du président français. Il a eu des mots très très durs pour déplorer l'absence de consultation sur des questions stratégiques. Il a dit que ce niveau-là était en état de mort cérébrale. Je voudrais savoir quelle réponse vous allez apporter. Si jamais le cerveau est mort, est-ce qu'il faut changer de cerveau ? Donc dans ce cas-là, faut-il qu'il y ait des démissions ? Ou est-ce qu'on fait comme l'ont fait les Allemands, on discrédite la remarque et la réflexion française en accusant la France de vouloir torpiller l'OTAN. Est-ce que c'est la bonne solution ? Merci.
I will go to Paris next week.
Je me rends à Paris la semaine prochaine et j'aborderai toutes ces questions avec le président Macron. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder lorsqu'on a des divergences. On se rencontre pour en parler. Comme ça, je pourrais mieux comprendre le message et quelles étaient les raisons derrière tout cela. Ce que je puis vous dire aujourd'hui, c'est quand vous regardez ce qui a été fait par l'OTAN au fil de ces dernières années, on constate qu'on a une alliance qui est souple, en mesure de s'adapter. Nous avons renforcé la défense collective. Les États-Unis, en fait, ne sont pas en train de quitter l'Europe. Ils sont de retour en Europe. Les alliés européens investissent plus. Nous modernisons l'alliance. Nous avons une structure de commandement adaptée. Et nous faisons face aux menaces hybrides, cyber. Les Nord-Américains et les Européens coopèrent plus qu'ils ne l'ont fait au cours de ces dernières décennies. Et donc, je pense qu'on peut dire sans aucun doute que l'OTAN est en mesure de s'adapter, l'OTAN est capable de répondre face à un monde plus complexe, face à des menaces imprévisibles. Et nous restons 29 alliés, ce qui veut dire qu'il y aura toujours des divergences. Ça veut dire que nous avons 29 pays dirigés par des majorités différentes, des pays de régions différentes, des cultures différentes. Il y a toujours eu des divergences déjà en 56 avec la crise du canal de Suez. Même chose avec la guerre en Irak. Il y a eu de nombreuses divergences. Mais au sein de l'OTAN, on a toujours pu mettre ces divergences derrière nous et se concentrer sur l'essentiel, à savoir notre protection, notre sécurité. C'est dans l'intérêt national de chacun des pays membres de l'OTAN de rester unis, surtout en ces temps incertains. Et pour ce faire, il faut des institutions multilatérales solides, telles que l'OTAN. Et donc, il faut renforcer l'OTAN, non pas l'affaiblir. Et ça, c'est la responsabilité de chacun. Et je me félicite du fait que c'est bien ce que nous faisons ensemble à 29, y compris la France. Et sinon, comme je l'ai dit, les efforts visant à renforcer la défense européenne, c'est une très bonne chose. Nous saluons ces efforts. Mais comme la chancelière allemande l'a dit lorsque je l'ai rencontrée il y a quelques semaines, cela doit se faire dans le cadre du pilier européen au sein de l'OTAN, car l'Union européenne ne peut remplacer l'OTAN. La sécurité européenne dépend de l'unité transatlantique. Et ça, c'est un message très clair, communiqué par les pays alliés avec lesquels j'ai pu discuter. Et si on éloigne l'Amérique du Nord de l'Europe, on affaiblit l'OTAN, on divise l'Europe et donc on affaiblit l'Europe. On a besoin d'une Europe forte et d'une OTAN forte. Il n'y a là aucune contradiction. Merci beaucoup. À demain.